celui qui croit en lui élèvera encore. Je suis libre du péché, je suis libre de la mort, je suis libre, je suis ma délivré. Je peux vivre pour les gens dans un délit, un amour avec lui pour l'éternité. Heureux celui qui croit en lui, quand même il serait mort. Hey! Heureux celui qui croit en lui.
Continuer notre série sur la grâce de Dieu. J'ai eu des nouvelles, ça a fait du bien à plusieurs personnes. Béni soit le Seigneur. On va lire 1 Corinthiens 10, 13, s'il vous plaît. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire ça n'est jamais surhumain. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. La vie de disciple de Jésus-Christ n'est pas le genre de vie où il nous suffit de dire « Au nom de Jésus !» pour que tout s'arrange. Hein? Ni au nom de Jésus, ni flippendo, ni abracadabra, c'est pas de la magie. Hein. Jésus lui-même, il a eu des difficultés, tout au long de sa vie, des difficultés. Et les disciples aussi. Quand on lit par exemple ce que Paul écrit, on voit son cœur, c'est un homme qui a souffert, qui souffre encore, et qui encourage les églises à faire confiance à Dieu. Parce qu'il sait très bien que tous ces gens qui sont là dans les églises, ils vont avoir besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année, tout le temps. On a besoin de la grâce de Dieu tout le temps, du cadeau de Dieu tout le temps. La vie de Jésus, ce n'est pas une vie magique. On ne dit pas « au nom de Jésus » et tout devient merveilleux. Ce n'est pas non plus une vie où il suffit de chasser les démons pour que tout s'arrange. Bien sûr qu'on chasse les démons, mais ce n'est pas toujours des démons qui font qu'il y ait des problèmes. Hein? Chacun d'entre nous doit accepter deux grandes vérités spirituelles, absolument. La première, c'est que la grâce est là pour nous aider à traverser ces moments. Et la deuxième vérité, c'est que Dieu utilise le mal pour nous briser, pour nous changer, pour nous équiper, pour nous rendre forts à son service et pour que nous ayons une meilleure place dans le royaume à venir. Il ne faut pas se voiler la face. Les gens qui pensent qu'en devenant chrétiens, ils vont pouvoir améliorer leur moi, non, Dieu veut le tuer. C'est autre chose. Dieu veut le tuer, le briser, il veut nous changer. La deuxième, ces deux règles-là, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier. La vraie Église de Jésus-Christ, elle est au service de Dieu sans faire le choix du compromis, sans faire le choix des solutions de facilité. Les Saintes Écritures, elles ne doivent pas être utilisées pour faire en sorte que les choses nous arrivent comme nous voudrions qu'elles nous arrivent. Oui, la Bible dit que, alors je peux m'attendre à, bien sûr, oui, mais attendez, c'est pas si simple. Tous les jours, on est éprouvé, tous les jours, on est tenté, et vous n'allez pas me dire le contraire, on est tous dans ce cas-là. Mais Dieu a pour nous, tous, un immense réservoir de grâce pour nous permettre justement d'être victorieux. Dans ce 21e siècle qui est aussi pourri que le temps de Noé. Aussi pourri. Alors, il faut faire attention de ne pas se décourager. Vous vous rappelez la petite histoire que Raphaël le Gitan raconte toujours. Il dit, il y avait une foire, un peu comme aujourd'hui à La Ferté, là. Il y a une foire, vous savez, la foire au grenier. Voilà, on a notre sœur Sandrine qui est là-bas et qui est en train de vendre des vieux trucs de la communauté. Et tout l'argent va partir pour l'Afrique. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Pour l'humanitaire. Et alors Donc le diable était là dans une foire comme ça. Il avait un stand et il vendait des trucs. Et puis, il y a un bonhomme qui passe, il dit, qu'est-ce que c'est cette arme là au fond? Et il dit, ah ça je la vends pas. Ah bon, pourquoi? Ah non, ça c'est mon arme, moi je la vends pas. Mais qu'est-ce que c'est cette arme? Ah ben c'est la meilleure arme qui puisse exister. Ah bon, mais c'est quoi? Ah mais je la vends pas, ça sert à rien. Mais dites-moi ce que c'est. C'est le découragement. Avec cette arme-là, j'arrive à tous les avoir. Tous les chrétiens, j'arrive à les avoir avec le découragement. Et depuis qu'on sait ça, maintenant on fait attention. Hein. Maintenant, depuis qu'on sait que l'arme du diable, c'est surtout le découragement, je vous exhorte, mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Ne faites pas ce plaisir au diable. Amen. Les défis qui se trouvent devant les chrétiens de ce siècle-ci sont plus grands que les défis qui existaient autrefois. C'est plus grand parce que non seulement nous avons les démons, c'est-à-dire les esprits des Néphilim, maintenant on sait d'où ils viennent, les mauvais esprits, avec le livre de Enoch. Au fait, je voulais remercier tous les donateurs, ça y est, la somme est réunie, le devis est arrivé, on va envoyer cet après-midi le livre aux imprimeurs et il va, j'espère, pouvoir paraître à Noël. Amen. Je remercie tous les donateurs, c'est chose faite maintenant. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Donc, dans le livre de Enoch, on apprend que les veilleurs, c'est-à-dire ceux que la Genèse 6 appelle les fils de Dieu, c'est-à-dire c'était des anges, des veilleurs, ils sont venus, ils étaient 200, ils sont venus et ils ont eu des relations avec des femmes, ça a donné des géants, des néphilim. En fait, il y a eu trois races de personnages terribles et ils étaient hybrides. Ils se dévoraient les uns les autres, ils dévoraient les hommes, mais ils ont fini par mourir et leurs esprits sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les mauvais esprits. On apprend ça dans Enoch, le plus vieux livre du monde, 5300 ans. Maintenant, il est authentifié parce qu'il a été retrouvé dans les manuscrits de la mer morte. On sait que c'est vraiment le livre d'Enoch. Amen, c'est réjouissant, Dieu nous donne ça, c'est magnifique. Donc, non seulement il y a ces mauvais esprits, les mauvais esprits, ils ont toujours agi, mais maintenant, en plus, le séjour des morts a été ouvert puisque nous sommes sous le quatrième sceau et les morts sont en train de parcourir la terre. Pas les gentils, hein. Les gentils sont dans le sein d'Abraham, dans le repos, dans la paix, dans la nuée. Vous allez lire qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé dernièrement au sujet de la nuée. Mais les morts, c'est les mauvais morts, ils sortent du séjour des morts et puis ils se baladent sur la terre. Et vous avez par exemple Hitler, des gens comme ça. Hitler, cet esprit qui va encore tourmenter d'autres chefs d'État. Alors on se pose des questions, mais c'est comme ça, vous avez des monstres comme tous ces gens, ces criminels, ces serial killers, ces marchands de drogue, ces gens qui sont infâmes, tous ces morts-là sont sortis du séjour des morts et parcourent la terre et ils ont reçu le pouvoir de tuer un quart de la population. C'est pire que jamais, jamais ça s'est trouvé. C'est aujourd'hui. La prophétie qui se trouvait sous le quatrième sceau d'Apocalypse, elle est accomplie. Nous sommes dans cette époque-là. Les défis qui se trouvent devant les chrétiens de ce siècle-ci sont plus grands que jamais. Dieu, en même temps, il est en train de tout rétablir. Et il veut rétablir son peuple dans la foi que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile de la grâce. Dieu ne veut pas, ne permettra pas. Mais en plus, il explique, il donne des révélations nouvelles pour qu'on comprenne. Qu'on n'ait pas simplement une foi du charbonnier bête, mais qu'on comprenne les choses. Paul, il nous dit, aucune tentation, ça, je vous lis la version King James qui était remise en français, ça donne, aucune tentation n'a pris le dessus sur vous, excepté celle qui est commune à tous les hommes. Mais Dieu est fidèle. Il ne vous permettra pas d'être tenté au-delà de ce que vous êtes capable de supporter. C'est magnifique. C'est magnifique. Tous les chrétiens savent ça intellectuellement. Mais maintenant, Dieu veut le réveiller par l'esprit en nous. Nous avons le désir de marcher selon Dieu. Nous avons le désir de marcher selon les bonnes ordonnances de Dieu. Mais en même temps, notre chair, elle veut pécher. Elle veut marcher comme les irrégénérés. Elle le veut, elle le désire profondément. Et les tentations sont partout, tout autour de nous. C'est vrai. Ce que le monde propose à notre chair, c'est bon pour notre chair, mais c'est très dangereux pour notre esprit. C'est vrai. Et Jésus nous dit que nous ne devons pas fuir le monde, nous devons résister. C'est le monde, c'est le diable, c'est les démons, c'est tout ça qui doit fuir, ce n'est pas nous. Il nous appelle à vivre dans ce monde sans être dans ce monde. Mais il veut qu'il y ait une démarcation. Il veut que tous puissent voir la différence. Pas seulement les gens, mais aussi les anges, les démons, ces mauvais esprits et tout ça. Et les morts, Dieu veut que la démarcation soit nette. Personne ne peut éviter les tentations. Personne. Même Jésus n'a pas évité la tentation. Mais il n'a pas succombé. Et tout disciple de Jésus doit faire face aux tentations, aux épreuves. Et l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas appelés à y faire face tout seuls. Ou nous ne sommes pas appelés à y faire face en nous appuyant sur nos connaissances bibliques. Même si nous connaissons les versets qui s'appliquent aux tentations spécifiques qui se présentent devant nous, ça ne vous aidera pas du tout. Si vous ne vous appuyez pas sur la grâce de Dieu, si vous vous appuyez sur vous-même en pensant que votre connaissance va pouvoir vous aider à lutter d'une façon correcte parce que vous avez le casque du salut et toutes ces choses-là et l'épée de l'esprit parce que vous connaissez les paroles. Non. Les gens se bourrent le mou en apprenant par cœur des versets bibliques pour pouvoir les mettre en face du diable et pensent qu'ils vont être victorieux comme ça. Non. C'est la grâce de Dieu qu'on doit aller chercher. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans ces moments-là. Pas de notre connaissance biblique. Vous avez des jeunes convertis qui ne connaissent rien à la Bible encore, mais qui sont plus forts que des vieux convertis. Parce qu'ils savent puiser à la grâce. Maintenant, n'accusez pas trop le diable. N'accusez pas le diable quand vous êtes tenté. Parce que le diable, à ce moment-là, écoutez-moi bien, le diable dans ces moments-là, ou les démons, ils sont à ce moment-là des envoyés de Dieu. Dieu envoie le diable pour vous tenter. Exactement cela. Dieu envoie le diable pour vous tenter. C'est Dieu qui le fait. Si vous relisez 1 Corinthiens 10, 13, vous allez voir quelque chose d'étrange. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ça veut dire que Dieu prépare la tentation. Ce n'est pas Dieu qui tente, il laisse ce sale boulot au diable. Mais c'est avec la tentation, il prépare aussi le moyen pour vous d'en sortir. C'est Dieu qui le fait. Évidemment, ce n'est pas Dieu qui vous tente directement, il ne veut pas se salir les mains, il a bien raison. Il laisse ce sale boulot au diable. Il faut comprendre ça. Le diable a été créé pour ça, pour faire ce sale boulot. Proverbe 16, 4. Tout a été créé dans un but, même le méchant pour le jour de la destruction. Comprenez ça. Ne mettez pas tout sur la faute du diable. Discernez que c'est Dieu qui est en train de vous éprouver, qu'il permet que vous soyez tentés. Il y a une raison à ça. Ces démons, ils viennent, ils vous tentent, ils vous éprouvent de toutes sortes de manières. Et c'est à vous de saisir le moyen que Dieu a préparé pour vous en sortir. Il l'a préparé aussi. Il a préparé les deux. Et il prépare le moyen pour vous d'en sortir. Quel est ce moyen? La grâce. Un cadeau. Il faut que vous alliez plonger là dans la piscine de la grâce. Plonger dans la grâce de Dieu qui est votre force. Ce que Dieu prépare pour que nous puissions sortir de la tentation, ce n'est pas un moyen naturel. C'est un moyen spirituel, c'est un moyen surnaturel. Et il faut que nous nous arrêtions pour aller vers la grâce, vers le surnaturel, vers la puissance de Dieu, vers la force de Dieu pour nous aider à en sortir. La grâce, nous dit la Bible, elle est venue par Jésus. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Je vous enseignais cela, pas ce vendredi, mais l'autre vendredi. Donc maintenant la grâce est venue, elle vous est tendue, elle vous est offerte, c'est un cadeau, mais c'est à vous de le prendre, pas seulement pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, mais pour être sauvé de toutes les tentations, être sauvé de toutes les épreuves, être sauvé de toutes les difficultés qui peuvent être les vôtres. C'est ce que Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Le cadeau de Jésus, il est là-dedans. Il est en Jésus-Christ. C'est à toi d'aller en Jésus-Christ. de quitter des yeux le serpent qui t'hypnotise pour dire non, je tourne les yeux vers Jésus, d'où me viendra le secours. Amen. La grâce de Dieu vous tiendra debout, mes frères et sœurs. Quand 10 000 tomberont à votre côté, la grâce de Dieu vous tiendra debout. Alors la question est la suivante. Est-ce qu'on peut arriver au point de ne jamais pécher? Non. On ne gagne pas toujours. Et ça aussi, c'est permis par Dieu. Là encore, souvenez-vous que la grâce est toujours là pour vous. Dieu veut cela. Il n'y en a qu'un qui n'est jamais tombé, c'est Jésus. Même Moïse, il était tellement parfait que Dieu a chipoté et il ne l'a pas laissé rentrer dans le pays d'Israël parce que sinon les Juifs, déjà, ils en font une idole. Mais alors maintenant, ça serait terrible si en plus il était rentré dans le pays de la promesse. Il n'y a personne qui est parfait. Dieu ne laisse à personne la possibilité d'être parfait sur la terre parce qu'il n'y a que lui qui est parfait. Alors il chipote sur une histoire de frapper ou de parler. Lisez bien les textes, c'est bizarre. Vous ne pouvez pas ne pas pécher, mais quand vous êtes tombé, quand vous avez fait quelque chose qui n'est pas correct, là encore, souvenez-vous que la grâce de Dieu est pour vous. On en reparlera. Il y a une chose que chaque disciple doit croire d'une façon absolue. Chaque fois que vous pensez que vous allez pouvoir vous en sortir tout seul, vous êtes déjà perdu. Et chaque fois que vous pensez que vous n'êtes pas capable de vaincre, alors vous êtes en train de gagner. À l'instant où vous réalisez que vous n'êtes pas capable, vous comprenez que vous êtes faible et vous le dites à Dieu et instantanément, la grâce de Dieu prend le relais. Mais c'est vrai, mes frères et sœurs. Mais encore faut-il réaliser qu'on ne peut pas y arriver par soi-même. C'est ça le secret de la force, c'est cette compréhension-là, cette connaissance-là. Par manque de connaissances, le peuple périt. Ne sachant pas ces choses, il vit au hasard. C'est ça la signification de ce que Paul dit quand il dit « Quand vous êtes faible, c'est là que vous êtes fort. » Et votre victoire, elle vient de sa force, non pas de la vôtre. Et votre victoire, ce n'est pas à votre gloire, c'est à sa gloire quand vous agissez comme ça. Tandis que si c'était par votre propre force, ben Dieu ne serait pas glorifié. C'est encore vous qui serez glorifié. Ah, je m'en suis sorti par mes propres œuvres. Mais ça ne glorifie pas Dieu, ça. Ça, c'est un langage que les inconvertis ne peuvent pas comprendre. Quand on parle comme ça à un inconverti, il dit, mais c'est quoi ce Dieu qui veut toujours être glorifié? Il est un peu malade ou quoi? Dieu n'est pas un homme. Il faut arrêter de penser, de juger Dieu comme on juge un homme. Si un homme cherche à être toujours glorifié, là il est malade, mais Dieu c'est différent. Il est Dieu. Et vous devenez vraiment spirituel quand vous pouvez dire « je ne peux pas ». C'est terrible, hein? Paul était vraiment un très bon disciple. On lit son témoignage, on lit ses écrits, au travers de ce qu'il dit, on peut comprendre ses souffrances, on voit toutes ces choses-là, et on s'aperçoit que c'était vraiment un bon disciple. Et pas parfait, mais un bon disciple. Et Dieu lui a révélé beaucoup de choses, parce que justement, c'était un homme qui s'efforçait de bien se discipliner, qui n'était pas parfait, qui le savait, qui disait « je ne peux pas par moi-même », mais qui comptait sur la grâce de Dieu. Alors Dieu lui révèle beaucoup de choses. Écoutez-le dire, « ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Philippiens 4, 11. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis d'écouter Paul quand il dit ça? Pourquoi? Pourquoi je vous cite ce texte? Parce que de nos jours, ceux qui essayent d'être disciples de Jésus ne sont pas contents de l'état dans lequel ils sont. Mais Michel, je suis dans le besoin. Pas question d'être content de cette situation-là. Michel, pas question de manquer de quoi que ce soit. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit de pauvreté. Je résiste à ce démon au nom de Jésus. Être dans le besoin, moi, un enfant de Dieu, jamais. D'ailleurs, la Bible dit, je ne manquerai de rien. Alors, je ne vais pas me contenter de ce que j'ai quand même. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit de pauvreté. Eh bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas du tout l'esprit de l'Évangile. Ça, c'est l'évangile presse-bouton. C'est l'évangile, je ne participe à rien. C'est l'évangile, je n'ai aucune communion aux souffrances de Christ. C'est l'évangile, j'ai aucune identification avec sa mort. Je ne veux que de bonnes choses. C'est l'évangile des sales gamins mal élevés.
Maman, je veux la sucette. Maman, je veux la petite voiture. Maman, donne-moi, je veux. Je veux regarder, oui. Je veux. Je suis un enfant du roi.
Sale gamin. Philippiens 4, 12, ça nous dit... Tiens, on va le lire, Philippiens 4, 12. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette, et je puis tout par celui qui me fortifie. Dans mon cœur, ça veut dire qu'une chose très importante que nous devons tous savoir, et si vous qui écoutez Internet, vous ne voulez pas, eh bien tant pis. Mais je veux que les frères et sœurs du sanctuary, vous le vouliez, que vous fassiez de cela votre absolu. On ne peut pas transformer la prospérité et la pauvreté en doctrine. Alors c'est évident que si on devait choisir, on choisirait la prospérité, c'est sûr. Mais par moment, Paul a été dans le besoin. Dans le besoin. Alors, on a notre frère Fabrice, là, Soma, qui est africain, qui vient d'Afrique. On a notre sœur Colero, qui est aussi africaine ici. Ils savent que la pauvreté là-bas commençait. Mais maintenant, notre sœur Colero, elle réalise qu'il y a aussi de la pauvreté ici, qu'elle est différente, elle est un peu plus dorée, mais elle est aussi de la pauvreté. C'est-à-dire que c'est organisé de façon ici que ce qu'on gagne, on ne puisse pas en profiter. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a l'air riche, mais on ne l'est pas du tout. On est dans le besoin, dans la communauté aussi. Vous allez me dire que tout va bien, qu'on a... Oh, on a tellement, n'est-ce pas? Oui, quand un Africain vient pour la première fois, qu'il voit le château, il dit, quand il va à Paris, qu'il voit les rues, oh, quand il voit les magasins, tout ce qu'on vend qui est superficiel et léger, tout ça, il dit, qu'est-ce qu'ils sont riches. Après, on descend au parking, 20 euros. Oh, c'est cher. La sœur dit oui. Tout est cher de façon à ce qu'on ne puisse pas être abondant et prospère. C'est comme ça. Il y a aussi une pauvreté ici, il y a aussi le manque, il y a des gens qui sont surendettés. Ça existe. Paul a été dans le besoin, et nous aussi, même si on a l'air plus riche que les Africains, nous aussi, on est dans le besoin. Il ne faut pas se voiler la face. Ce que je cherche en lisant Paul, ce qu'il écrit, ce que je cherche, c'est « Mais comment il a fait dans la disette ? Comment il a fait dans la disette ?» Eh bien, moi, je vois que Paul, il disait, « Seigneur, je suis dans le besoin maintenant, mais je sais que ta grâce est suffisante pour moi. Et je peux tout par celui qui me fortifie. » Et il restait dans la paix. Alors, mon frère, ma sœur, ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Parce que je ne parle pas que de pauvreté financière, mais je peux parler aussi de pauvreté physique, mentale. Je peux parler de pauvreté... de toutes sortes de pauvreté. On a tous des manques, on a tous des difficultés. Seigneur, je suis dans le besoin. Physiquement, je suis fatigué. Physiquement, je suis souffrant. Mais mon Dieu, je sais que ta grâce me suffit. Ça ne veut pas dire que ça va durer toujours. Mais je suis content de ce que j'ai là, maintenant. Et je veux te chercher à te glorifier là, maintenant, dans l'état où je me trouve. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est ce que Paul enseigne. Je sais que Paul n'est plus à la mode, même chez les protestants. Eh bien, tant pis pour eux, moi j'aime Paul. Cet esprit, l'esprit de Christ, c'est cet esprit-là qui nous rend capables de continuer à servir Dieu malgré tout. Malgré tout. Et c'est à cause de l'esprit de Christ qu'on ne peut pas faire de la prospérité et de la pauvreté une doctrine. Je me rappelle, et je vous le disais l'autre jour, et je vous le répète, moi, je me rappelle d'un temps où quand quelqu'un avait une vieille voiture, on disait « Ah, il n'est pas en ordre avec Dieu. » Parce qu'il n'a pas les moyens de se payer la voiture de l'année. Ça existait, ça. quelle bêtise. La sainte doctrine, c'est tout autre chose. La sainte doctrine, c'est Dieu est roi. Dieu est roi. Et s'il décide de nous rendre prospères, qu'il soit loué. Et s'il décide qu'il ferme les robinets pendant un moment, il fait comme il veut qu'il soit loué. Amen. Mais il ne faut pas faire exprès non plus d'être pauvre. Il faut faire tout ce qu'il faut pour que on a aussi, il faut se relever les manches et puis se mettre au travail. Mais quand tout va de travers, quand même on fait tout ce qu'il faut avec les forces que nous avons, alors là on se tourne dans la grâce de notre Seigneur, nous trouvons la force. Je sais que c'est pas la mode, mais tant pis pour ceux qui aiment la mode. Moi je préfère l'esprit de l'Évangile. Il y a des modes chrétiennes. Moi, je préfère l'esprit de l'Évangile, revenir à simplement l'esprit de l'Évangile. Vous savez que je suis loin d'aimer la pauvreté, hein. Vraiment, j'aime bien tout ce qui brille, j'aime bien tout ce qui est beau, j'aime bien tout ce qui est chic, c'est vrai. Mais il faut être équilibré dans la vie. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je disais à Fabrice hier soir que sur notre site Révélation Bible, moi qui prêche l'Évangile avec des guérisons miracles et toutes ces sortes de choses, j'ai voulu que quand j'ai été opéré du cœur il y a 3 ans, on mette ma photo, la photo de moi dans mon lit d'hôpital pour que les gens voient que je sais aussi vivre ces choses-là, que je ne suis pas une espèce de chouchou de Dieu à qui il n'arrive que des bonnes choses et que je suis un privilégié, une espèce de surhomme. Non. Je sais vivre dans la santé, mais je sais vivre aussi dans la maladie, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi dans la disette. Pas vous ? Gloire à Dieu. Si vous ne savez pas encore, il faut apprendre. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à me contenter dans l'abondance et dans la disette. J'ai appris. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Ah bon, il se trouvait où quand il a écrit ça ? En prison. Il a écrit ça en prison. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. En prison. Je suis en prison. Observez donc comment il réagit face à cette situation. Qu'est-ce que fait cet homme de foi qui comprend la grâce de Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il compte sur la grâce de Dieu. Il est là dans cette prison, il compte sur la grâce de Dieu. Et il écrit à Timothée, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Toute ma vie, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Toute ma vie, c'est le Seigneur qui m'a fortifié. Et il me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera. Voilà ce qu'il écrit dans 2 Timothée 4, 17, 18. Il écrit ça. Et Dieu l'a sauvé. En effet, Dieu l'a sauvé. Mais il y a quand même eu sale moment à passer. Et il était content dans ce sale moment. Vous voyez, mes frères et sœurs, le cœur de Paul, il est paisible, satisfait dans n'importe quelle situation. Je confesse que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas parce que j'ai besoin de les apprendre que je ne vais pas vous les enseigner. Il dit, partout et en tout, j'ai appris à être rassasié. J'ai appris à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai appris ces choses-là, comment ? Comme Christ a appris, par les choses qu'il a souffertes. Voilà ce que la Bible nous dit, voilà l'esprit de Christ, voilà l'esprit de l'Évangile. Il a appris par les choses qu'il a souffertes. Il n'a pas appris dans les bouquins. Notre frère Fabrice va aller à l'école, plus que l'école biblique, c'est le niveau universitaire. Mais ce n'est pas là-bas qu'il va apprendre ça. Il rigole, c'est vrai. Paul, il a trouvé la clé. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis en lui et en lui, je trouve ce cadeau, la grâce. La grâce. Ça, mes frères et sœurs, c'est l'esprit qui souffle à travers toutes les pages de la Bible. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et si Dieu agit comme ça avec Paul, est-ce que c'est Dieu qui l'a mis en prison ? Oui, monsieur. Il s'est servi du diable pour le faire, mais c'est quand même... Si Dieu n'avait pas voulu qu'il aille en prison, il n'aurait pas été. Hein. Quand Dieu n'a pas voulu que Pierre reste en prison, il l'a fait sortir. Quand c'était fini pour le temps de Paul, il l'a fait sortir. C'est Dieu qui est roi, c'est Dieu qui décide. Mais il se sert de l'autre, là. Du cornu, comme il dit Raphaël. Pour le mettre en prison. Et si Dieu agit comme ça avec Paul, est-ce qu'il va changer sa façon d'agir avec nous, pas simplement parce que nous sommes au 21e siècle ? Pas du tout. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter au siècle présent, pas du tout. C'est à nous de nous adapter à sa façon d'agir. Alors, il y a une chose qu'il faut qu'on réalise. C'est que Dieu nous a créés, et puis on est perdu, on est tombé, la race humaine, on est tombé dans le péché, et puis ensuite il nous a sauvés. Et puis on pense que voilà, maintenant nous sommes sauvés, gloire à Dieu. Tout. Il faut comprendre quelque chose qui est très souvent un peu oublié. Dieu nous a créés, mais une fois créés, eh bien, il continue une œuvre en nous. Ce n'est pas fini. Il nous forme. Il nous donne la forme qu'il veut. À un, il va donner la forme d'un vase d'honneur. À l'autre, il va donner une forme peut-être un peu moins extraordinaire. Pour l'autre, il y en a qui vont servir à mettre des belles fleurs. D'autres, c'est simplement, il va faire un beau pot de chambre, je ne sais pas. Mais voilà. Il nous donne la forme qu'il veut. Il nous éduque. Il nous façonne par l'instruction et par l'éducation. Il nous forme, c'est-à-dire, il nous exerce. Il nous entraîne jour après jour pour que nous retrouvions l'apparence d'avant la chute. Il nous forme, il nous exerce pour que nous retrouvions l'apparence qui soit reconnaissable par les anges quand nous quitterons notre corps. Il est le potier, nous dit la Bible. Et nous sommes la terre, nous dit encore la Bible. Et il nous forme. Il nous forme. Et nous prenons forme entre ses mains. Et de temps en temps, il y a des pressions qui s'exercent. C'est qui exerce ces pressions? C'est Dieu qui exerce ces pressions. Et nous, nous les ressentons comme quelque chose de mal. Aïe! Pas vrai? Mais c'est pour notre bien et c'est pour sa gloire. Et ce n'est pas de la psychologie. C'est vrai. Si Dieu dit ça, c'est que ça, c'est vrai. Alors les jours se suivent. Et les jours se suivent. Le matin, je me réveille et je dis, oh là là, encore lundi. Ou alors, oh là là, ça vous arrive jamais de dire, c'est répétitif quand même. Quand j'arrive bientôt à 62 ans, je me dis, qu'est-ce que ça devient répétitif tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Enfin, heureusement, maintenant, grâce au trou d'eau jaune, on a des mois de septembre qui ressemblent au mois d'août, ça change un peu. Mais bon, autrement, c'est quand même très répétitif. Hein. Les jours se suivent, sont répétitifs, un peu comme les mouvements d'un culturiste. Ça se répète. Le contenu de nos jours sont des exercices, toujours pareil. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Vous connaissez ? Ben voilà. L'instruction, elle nous vient par la Bible. L'instruction, elle nous vient par les prédications de l'Évangile, par les prédications, les enseignements. Ces enseignements ont pour but de nous faire parvenir à la stature parfaite de Christ, c'est ce que aussi Paul nous dit. Mais la Bible et les prédications ne sont que de l'instruction. C'est nécessaire, extrêmement nécessaire, mais ce ne sont que de l'instruction. Encore faut-il l'éducation. Et l'éducation, c'est le côté pratique. C'est quoi ? Ben, c'est le vécu dans la joie et dans la peine. Ça, c'est l'éducation. C'est le vécu dans la santé et dans la maladie. C'est le vécu dans la pauvreté et dans l'abondance. Ça, c'est l'éducation, ça nous éduque. C'est le vécu dans le confort et dans l'inconfort. C'est le vécu dans les amis et les ennemis. C'est le vécu dans les louanges et dans les outrages. C'est le vécu. C'est la vraie vie. C'est pas seulement des versets bibliques. C'est pas seulement des belles prédications. Les plus belles prédications ne changeront pas votre vie. C'est ce que vous allez en faire après, dans le vécu. Tout ça, ça nous forme. Et Dieu se sert des démons autant que des anges. Vraiment, mes frères et sœurs, Dieu se sert autant des démons que de ses anges pour nous former. À nous d'aller à la source de la vie, de la grâce. À nous d'aller chercher notre cadeau. À nous de tenir ferme jusqu'au bout en puisant dans sa grâce. Je voudrais qu'on fasse une dernière lecture. Elle se trouve dans Ésaïe au chapitre 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Vous voyez, créé et puis ensuite formé. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Jésus pour ces quelques mots. Merci Seigneur parce que tu étends ta main dans le cœur de chaque personne qui a écouté cela, afin que sa vie puisse être au bénéfice de ces paroles miraculeuses qui nous donnent tant d'espérance. Merci Jésus de permettre que le plus grand nombre puisse les écouter sur Internet afin d'être fortifié et de pouvoir trouver dans la grâce tout ce dont ils ont besoin comme force au jour après jour. Merci Jésus. Amen. Amen. Les musiciens.